I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je suis presque certain que la plupart des lésions sur le visage et sur le crâne ont été infligées post-mortem. Non pas pour tuer ou pour blesser, mais pour détruire.
Moi, il se trouve que j'avais voulu assister et que j'ai assisté à une autopsie pour voir ce que c'est. C'est intéressant de montrer avant, pendant, après, ce qui se passe dans la tête d'un policier. Voilà, dans les fictions classiques, il sort de la salle d'autopsie en disant « c'est atroce, faut vraiment qu'on trouve le salaud qui a fait ça ». Et puis en fait, deux minutes plus tard, le policier a complètement oublié qu'un gamin était mort. Il a complètement oublié qu'il a assisté à un spectacle assez choquant, qui est difficile à supporter. On sort, on sent la mort. Quand je suis sorti, j'avais l'impression d'avoir la mort dans le nez, dans la gorge, etc. C'est, comment dire, je ne veux pas surdramatiser la chose, mais voilà, quand même, ce sont des choses qui sont réelles. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on peut plaisanter.
Vous ne vous sentez pas bien, lieutenant ?
De quoi on a l'air devant le légiste ? C'est pas ta première autopsie ?
J'aime pas ça,
tu sais très bien qu'il faut pas regarder le visage.
Il n'y en avait pas de visage, justement. Il n'y avait plus rien.
Alors, je suis Thierry de Pambourg, je suis directeur littéraire et j'ai occupé la fonction de directeur littéraire sur Engrenage sur les saisons 1, 2, 3 et 4. J'étais chargé, justement, d'assurer le travail autour de l'écriture, autour des scénarios. C'était mon travail de trouver des idées, de trouver des auteurs et d'organiser tout ça pour aboutir à un scénario dialogué. J'avais une collègue de bureau dont l'amie d'enfance avait épousé un commissaire de police. Elle a organisé un dîner à la maison. Et lors de ce dîner, j'ai discuté avec ce commissaire et j'ai découvert que je ne connaissais absolument rien à la police, au monde de la police et de la justice. Et que donc, depuis plusieurs années, je m'occupais de direction sur des séries policières ou parapolicières avec mes camarades scénaristes en racontant n'importe quoi. Et ça m'a à la fois amusé et attristé parce que je me suis dit, c'est pas bien, il faut que les choses changent en télévision, il faut qu'on propose des choses aux gens leur disant bah ça, là on va vous dire que ça va être juste, que ça va être un peu plus réaliste, et là pour une fois ça sera vrai. C'est un pari pas évident d'être réaliste, surtout de réussir à se documenter dans certains milieux qui sont des milieux fermés. C'est pas évident de rentrer dans le milieu de la police, de la prison, le milieu médical, il y a le secret médical. Donc il faut trouver un moyen détourné pour que les scénaristes puissent avoir une matière plus vraie, plus réaliste. Bon, ce moyen détourné, ça a été moi, parce que mon patron, le producteur, Alain Clerc, m'a donné la possibilité de passer du temps avec, justement, des policiers, des avocats, etc. Et donc, de me renseigner et de retransmettre cette documentation aux scénaristes essentiellement, puis après aux réalisateurs, etc.
Je vous accueille dans notre atelier et dans cet atelier donc, nous fabriquons très artisanalement des prothèses, des faux mannequins pour le cinéma, plein d'autres choses aussi, et notamment tous les cadavres et les effets spéciaux de maquillage qu'on a pu voir dans la série Engrenage.
Jean-Christophe Spadassini, chef des effets spéciaux.
Nous avons commencé à travailler sur la série Engrenage dès le début, en fait. On a eu beaucoup de chance. On venait de faire quelques années avant le film de Mathieu Kassovitz, Les Rivières Pourpres. On avait fait un mannequin qui avait un peu marqué les esprits. On n'avait pas du tout l'habitude de montrer ce genre de choses encore à la télévision. Il ne fallait surtout pas montrer une goutte de sang pour ne pas effrayer les spectateurs. Et pour la première fois, donc, on nous demandait de réaliser des effets spéciaux qui allaient vraiment montrer à l'écran. Et d'ailleurs, il y avait des descriptions assez terribles de meurtres. Et nous, on a tout de suite proposé des choses assez subtiles et même pas trop sanglantes pour pas effrayer les gens comme on avait l'habitude de nous demander. Et en fait, Je crois que les gens à Canal+ ont vu les rushs et ont appelé Son et Lumière, la production, pour leur dire « mais c'est pas ça qu'on veut, ce qui est décrit dans le scénario, on le veut à l'image ». Donc on a préparé les séquences pour la jeune femme qui est retrouvée dans cette benne à ordures, qui a eu le visage entouré d'un linceul et d'un sac en tissu comme ça, et qui s'était fait défoncer le visage au marteau. Hein, voilà. Donc là, on s'est un peu lâché, on va dire, et tout le monde était très content. C'était vraiment horrible. on avait beaucoup de références dans des bouquins de légistes. Dans cette série, on a vraiment, vraiment, vraiment pu pousser les choses loin. Quand on voit un homme brûlé, il est vraiment brûlé, carbonisé. Quand on voit un homme ouvert sur une table d'opération, il est vraiment ouvert sur une table d'opération.
Du coup, on pouvait être ambitieux.
Virginie Braque, romancière et scénariste en chef de la saison 2 d'Engrenage.
Moi, j'avais déjà vu Les Sopranos, j'avais déjà vu The Wire. J'étais complètement là-dedans et je regrettais beaucoup qu'on ne laisse pas les scénaristes français faire des séries. Et moi, j'étais pour vraiment, dans la tradition de The Wire, ancrer au maximum la série dans la réalité. J'ai discuté avec Thierry de Pombourg. Je lui ai dit, ouais, moi, je veux bien, mais il faut faire une série moderne. Il faut faire un truc comme font les Américains, comme moi, je vois The Wire. Il ne faut pas faire ce qu'on voit ailleurs, ce qu'on voit déjà en France. Il me dit, oui, je suis d'accord. On va aller voir Fabrice de la Patellière à Canal+, puis on va lui dire.
Que ce soit Navarro, Julie Lescaut, l'Instit, ils comprenaient tout.
Anne Landois, scénariste en chef des saisons 3, 4, 5 et 6 d'Engrenage.
Et ils arrivaient c'était des redresseurs de tort, à régler les problèmes des uns et des autres, sans que ça ait d'impact sur leur vie. Et quand on a commencé à découvrir les séries américaines, que ce soit Les Sopranos, New York Police Blues, on a brusquement réalisé la possibilité pour les auteurs, de créer des personnages complexes, qui échouaient, très proches de nous, parce que tout simplement un peu fragiles, parfois nuls.
Bon, on en est où de cette affaire-là ?
Je me casse, j'en ai ras le cul.
Tu vas où ?
Attends, il n'y a qu'à lui faire un lavement ?
On sent son consentement impossible.
Non mais du consentement de quoi ? Attends, il a rien dit compte depuis tout à l'heure, ça va, arrête.
T'as pas réussi à le faire parler ?
Réussi, non mais tu me prends pour quoi ? Ça va ? Attends, tu me colles là toute la journée, je suis quoi moi ?
Bah tu sais pourquoi t'es dans la merde.
Pourquoi je suis dans quoi ?
On était vraiment parti avec l'idée de faire une série très très proche de la réalité. Encore une fois, pour se démarquer des autres chaînes.
Fabrice de la Patellière, directeur du département fiction de Canal+.
Et en France, la série Police District d'Olivier Marchal, qui avait été produite par Capa et diffusée sur M6, avait marqué. C'était une série policière qui se passait à Paris, autour d'un groupe conduit par un personnage joué par Olivier Marchal. Et on était dans une violence et une noirceur très inhabituelles en France. En France, il faut se rendre compte que les grands héros populaires, notamment du côté du policier, c'était Navarro et Julie Lescaut. Donc des personnages qui, au fond, étaient très positifs. Navarro et Julie Lescaut parvenaient à résoudre les affaires à la fin de chaque épisode, avec une certaine droiture, avec une certaine morale. Ça avait très, très bien fonctionné, et ça fonctionnait encore très bien à l'époque. Mais nous, on voulait aller un peu contre ça, avec des personnages plus ambigus. Donc on a vraiment travaillé sur la documentation énormément.
Et pour réduire un être humain en cendres, il faut 3 heures à 2500 degrés. Celui-ci est loin d'être en cendres. On a bien une désolidarisation du squelette au niveau de la tête et une disparition des traits. Mais la position fœtale est très caractéristique d'une combustion lente. Regardez.
Thierry de Pombourg voulait partir d'une vraie histoire policière pour ensuite aller vers la fiction et non pas l'inverse. Il y a beaucoup de séries qui sont faites de façon inverse.
Éric de Barahir, commissaire de police et co-scénariste des saisons 2, 3 et 4 d'Engrenage.
Il allait dans les commissariats à la chaîne Anecdote et donc voilà, il essayait d'avoir un petit peu l'ambiance, avoir des histoires policières, des anecdotes et tout. Et donc on a commencé à parler et puis je lui ai raconté l'histoire policière, il a trouvé ça très bien, donc il m'a demandé de les écrire, il a trouvé ça très bien aussi. Et puis après il m'a demandé d'écrire l'arche policière de la saison 2. Donc j'ai proposé plusieurs thèmes. On a défini l'axe de travail sur une affaire de trafic de stupéfiants dans une cité. Et donc ça a été validé par Canal. Et donc là-dessus, j'ai fait une espèce de préarche policière sur ce qui m'était arrivé. Et donc j'ai fait un mix de plein d'histoires qui m'étaient arrivées au cours de ma carrière.
Il est où l'argent ? Enculé de ta race ! L'argent, il est où ?
C'était les blagues !
Pourquoi je t'entends pas ?
Ils avaient dépassé mes voix !
Quel j'en ai à foutre, moi !
C'était, il faut vous dire, la première fois qu'on parlait d'un go-fast.
Virginie Braque.
C'est une manière de trafiquer de la drogue, en fait, de ramener de la drogue à toute vitesse. Il y avait déjà des go-fast, mais enfin, on n'en avait jamais vu dans les polars. On était très en retard en France.
On s'est tout de suite entouré de consultants, à la fois pour l'écriture et même ensuite sur certaines scènes, sur le plateau, avec des policiers pour... notamment les gestes.
Fabrice de la Patellière.
Quand on met en scène un flic ou un magistrat, il ne faut pas se poser de questions. Il faut sentir que c'est vrai, que c'est quelqu'un qui a l'habitude de porter une arme, qui a l'habitude de passer des menottes. Et bon, bah, les acteurs, ils ont besoin d'apprendre ça. Et il n'y a qu'un professionnel pour leur montrer, en fait.
Ça, c'est bien. Que si tu le touches, il ne faut pas que l'arme soit à côté du mec.
Ouais.
Tu t'as dit, Jules. Attention, tu recules l'arme et tu peux le toucher, mais il ne faut pas que l'arme soit là, parce que si le mec, il te l'attrape, quand tu la recules vers toi, là, tu peux regarder sa carotide, sa blessure.
La caractéristique principale pour être un bon consultant sur engrenage, c'est d'être très bavard et de pouvoir parler sans retenue de son métier. Donc en fait, c'est intéressant pour des scénaristes parce que au-delà de toutes les expériences qu'ils nous racontent, nous, on extrait beaucoup, beaucoup de matière en tant qu'auteur.
Lorsqu'Anne Landois m'a sollicité, je lui ai dit « Mais pourquoi vous m'appelez, moi ?»
Gilbert Thiel, ancien magistrat, conseiller sur la série Engrenage.
Elle me dit « Parce que j'ai vu dans la presse que vous étiez mis au placard. » Elle dit « Ça tombe bien parce que le juge François Roman va être mis au placard. » Moi, je lui ai dit, si elle sait pour vous rendre service, je vais vous raconter comment ça se passe. Quand j'étais à l'antiterroriste, j'étais saisi entre 30 et 40 dossiers par an. Des dossiers lourds et des dossiers à ramification presque infinis. Donc, c'est lourd. Ben, quand vous êtes mis au placard, vous n'en avez plus que deux ou trois. Alors, bien par an, mais ça veut dire que le robinet est fermé, qu'on oriente les dossiers chez un autre collègue réputé plus souple, voire plus docile que vous.
Le juge Thiel, je l'ai rencontré à partir de la saison 4, je crois, quelque chose comme ça.
Philippe Duclos, acteur. Joue le rôle du juge François Roban.
Ça fait partie de la lignée de ces juges d'instruction, ce qui est Roban dans la fiction, hein, mais qui sont des juges voilà, extrêmement intègres. On se voyait une ou deux fois pendant la préparation, puis je posais des questions. Il m'expliquait que, bon, je sais pas, c'était la saison, oh, je sais plus, 4 ou 5, je sais pas quoi. C'est le type, le jeune père de famille qui a enlevé son enfant et puis qui s'est barré avec lui. Et puis finalement, il est soupçonné de meurtre et il est arrêté. Et puis à un moment, je le fous carrément en examen et puis même je le mets en incarcération. Et là-dessus, bon, on peut se dire, ouais, le juge Roman, il est pas très sympa, il charge, et effectivement, il se plante dans cette saison-là. C'est-à-dire que, voilà. Mais donc j'ai parlé de ça avec Gilbert, qui me disait, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais? T'as ça, t'as ces éléments-là. Le mec, il se barre. Je sais plus, histoire de vol, de carte bleue, je sais pas quoi. Il y a quelque chose de complètement louche. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le laisser dans la nature? Tu peux pas. Donc tu le fous en examen. Bah, vous voyez, les choses s'enclenchent au fond avec une très très grande logique. Tenez, voici le PV. Remettez-vous, mon garçon, c'est ça la justice, un jeu de dupes et de pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir, c'est moi qui ai.
Et puis, cerise sur le gâteau, un jour, pour qu'il voit vraiment comment ça se passe, je l'ai fait venir dans mon bureau pour assister à un interrogatoire. L'activiste corse qui était dans mon bureau, qu'est-ce que vous voulez, Anto, il regarde beaucoup de la télévision, il l'a tout de suite reconnu. Donc, je lui ai dit, au mis en examen, bon, j'ai accepté qu'il assiste, dans tel but. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit à mon activiste, méfiez-vous, il est encore plus vache que moi.
qu'est-ce que vous croyez? Que les enquêtes avancent grâce à la bonne foi des témoins? L'espèce humaine ment, triche, trahit. Si vous arrachez pas la vérité, vous l'obtenez jamais.
Moi, mon rôle, c'est surtout d'être pour la mise en scène, c'est-à-dire la mise en place des dispositifs de surveillance, la mise en place de ce qu'il faut, par exemple, quand il faut les gilets pare-balles et tout, et aussi pour l'argot policier.
Jean-Pierre Colombi, ancien commandant à la brigade de répression du banditisme, conseiller technique sur la série Engrenage.
Autant les metteurs en scène que les acteurs viennent me consulter, comme on dit, surtout les acteurs, et je pense surtout à Caroline Proust, qui est vraiment se figer dans le rôle de la chef de groupe en utilisant tous les comportements et tout le jargon policier.
On ne peut pas prendre le risque de le laisser partir. Hein. Si vous nous désignez, on tape une perquise et on les serre avant qu'ils disparaissent des radars.
Et j'ai eu le plaisir et le bonheur d'être, à partir de la saison 5, d'avoir un rôle. Alors, le rôle, c'est le rôle de JP. C'est un des hommes du groupe de Lorberto. Bon, je me suis fait un peu charrier parce que dans la vie... réel, j'étais commandant de police, donc chef de groupe et chef de section. Là, je me retrouve un des moins gradés dans le groupe. Donc là, maintenant, ce que je n'ai jamais fait, par exemple, à l'image, je faisais du café pour le groupe, je n'ai jamais fait avant. Donc là, je me fais un peu charrier. Cette série est vraiment, vraiment, vraiment appréciée par tous les policiers parce qu'elle vraiment, elle reflète un peu la réalité du travail et la réalité de l'ambiance et de tous les... comment dire, les soucis qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur boulot.
On vous propose d'aller faire du tir, c'est ce qu'on fait d'ailleurs tous les ans.
Caroline Proust, actrice, joue le rôle de la capitaine Laure Berthaud.
Voilà, histoire de se remettre un peu dans le milieu des policiers. Il y avait quelqu'un qui a été un conseiller police, il y a toujours un conseiller police, comme il y a un conseiller justice aussi en permanence pour accompagner le tournage. Ce qui, si bien que dès qu'on a une question de crédibilité, on la pose et puis elle est résolue instantanément. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette véracité dans la série.
En ce qui concerne les costumes comme les décors, il y a eu une recherche qui a été faite et à laquelle j'ai modestement contribué parce que je connaissais un petit peu le milieu de la police, le milieu des avocats, etc. Donc je les ai emmenés sur le terrain, que ce soit dans un commissariat, que ce soit au palais de justice, pour qu'ils voient l'ambiance, pour qu'ils voient les décors, pour qu'ils voient les costumes, à quoi ressemble un policier en tenue de civil qui travaille, voilà, pour approcher à la fois un certain réalisme et en même temps donner une certaine ambiance.
Ce qui a été assez génial, c'est que dès le départ, on a eu énormément de conseils, de consultants. Ouais.
Marie-Noëlle Van Merbeck, chef costumière.
Et après, et c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est que je me raconte des histoires à moi-même. Donc chaque personnage, je me raconte des histoires. Ils vivent dans tel appart, ils se parfument avec tel parfum, ils achètent ça comme bijoux. Je me raconte vraiment des histoires sur chacun. Avec Caroline, très vite, on s'est très très bien compris parce qu'elle réagit pareil.
Je me suis inspirée des costumes, en fait, pour aller dans le sens des costumes. L'attitude du personnage va être en fonction des chaussures que vous allez chausser.
Caroline Proust.
Et je me suis dit que si on était flic, il fallait pouvoir courir. Enfin, moi, j'ai un physique plutôt sportif, donc je me suis dit que c'était ce personnage-là que j'allais inventer. Et donc, il fallait que je ne sois pas avec des talons, parce que, évidemment, c'est un petit peu entravant pour courir. Je me souviens, la première fois... que j'étais à la coiffure, la coiffeuse, elle m'avait dit, elle s'appelle Fouzia à l'époque, et elle m'avait dit, mais tu veux te coiffer comment? Et je lui ai dit, je sais pas, une pince dans les cheveux, quoi. J'ai dit, une coiffure qui prend à peu près 20 secondes, montre en main, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui passe du temps devant son miroir. Elle est happée par son travail, et donc elle ne se prépare pas, elle n'est pas en train de se faire belle, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit tout de suite être là.
Je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi ce qui se passe autour de moi.
Marie-Noëlle Van Merbeck.
Par exemple, à chaque saison, quand il y a une saison sur les rappeurs, j'étais à des concerts de rap, chose que j'avais jamais fait. Quand on a fait la saison sur les prostituées de l'Est, j'ai été dans des quartiers de Paris où jamais de ma vie j'aurais osé mettre les pieds, mais j'ai été voir. Enfin, on essaye de faire au plus juste de ce que ça peut être dans la vie.
Dans les prisons, tout le monde regarde Engrenage, quoi.
Philippe Duclos.
J'ai rencontré plusieurs fois des ex-détenus, des jeunes gens, tout ça, je leur disais, ah bon, ouais, bon, il me raconte, tout le monde connaît Engrenage, quoi, parce que ça parle, bah, comme il dit, ça parle d'eux aussi, quoi. Et donc, là, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi, voilà. Donc, c'est très intéressant, ça, de voir ça. Ça traverse un peu toutes les couches de la société, Engrenage, quoi.
C'était le deuxième épisode du podcast Engrenage, histoire d'une série française. Dans le prochain épisode, comment Engrenage a choisi de montrer Paris sous un jour inédit à la télévision. Engrenage est une création originale Canal+, disponible en intégralité sur MyCanal. Pour continuer à explorer son univers, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Engrenage, histoire d'une série française sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres applications. Ce podcast est produit par Louis Créative et Canal+. Il a été écrit et tourné par Cyrielle Bedu. Clémence Grosse a assuré l'habillage et le conseil sonore. Mathieu Gagné la prise de son et le mixage. Maureen Wilson était assistante de production. Et Charlotte Pudlowski, productrice. À bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.